Bonsoir. Si Versailles mettait Comté, alors Comté, vous l'écrivez comme vous voulez, on fera un petit peu plus tard évidemment le bilan total des investissements promis par les grands groupes conviés par le président de la République. On parle quand même de plus de 3 milliards d'euros. Versailles, carrément, hein, voilà, donc Emmanuel Macron, il a voulu grand, il a voulu prestigieux pour ce premier sommet des patrons de grandes entreprises étrangères venues du monde entier, justement. Tiens, est-ce que la France, c'est l'endroit où il faut être désormais ? Choose France, voilà, c'est un petit peu le leitmotiv. Est-ce que le business mondial, eh bien, se macronise ? Bon, à voir, parce qu'il y a quand même des doutes, on va pas être béat à l'excès, hein. Il y a encore des questions qui se posent. Baisse de l'investissement, baisse de la compétitivité dans notre pays, poursuite des réformes budgétaires. Alors, est-ce que la France est vraiment de retour ? Voici les décodeurs de l'écho.
L'écho s'éclaire sur BFM Business. Fabrice Lundy reçoit les décodeurs de l'écho.
Les meilleurs, comme tous les soirs, hein, voilà, justement, on n'a pas hésité, hein, Alexis Karklins, bien sûr, Alexis Karklins, directeur général délégué d'Eight Advisory, cabinet conseil aux grandes entreprises, et qui signe, hein, évidemment, plusieurs rapports sur la compétitivité de la France. Quelle place pour la France dans les classements internationaux? Il a fait exactement la même chose pour le UK, dans l'actualité également, pour d'autres raisons. Bernard Michel est avec nous, PDG de Gecina, une foncière cotée avec un patrimoine immobilier de presque 20 millions d'euros avec des bureaux en France, des résidences, notamment des résidences étudiantes. Avec nous, Arnaud Vessier, PDG d'International SOS, président de CCI France International. Lui aussi surveille son rapport alors que le défi ETI va bientôt reprendre. Hein. Auteur d'un rapport avec l'Institut Montaigne, avec le métier également sur les ETI. Mathieu Jolivet, reporter à BFM Business. Et puis Benjamin Frémaux, associé de la banque d'affaires Messier, Maris, associé également aussi partenaire de l'Institut Montaigne. Alors, France is back? Oui. C'est la question que posait hier soir la BBC, donc au président de la République. La réponse d'Emmanuel Macron en anglais, vous allez tout comprendre, bien sûr.
I mean that we are delivering reforms which seemed impossible for decades. That's it. So we fixed a series of internal sure. difficulties and yes. we increase our capacity to produce and be competitive. This is for me the pillar, because when you are not credible at home, okay. no chance to be credible outside.
Voilà, donc Emmanuel Macron sur la BBC hier soir. Versailles, qui avait déjà été choisi pour recevoir le président russe, donc il y a quelques mois, donc 4 fois plus de patrons que le Conseil de l'attractivité organisé il y a quelques années par Nicolas Sarkozy, par François Hollande, 15 ministres qui étaient présents aujourd'hui. Alexis Karklins, c'est bien ou c'est trop?
C'est un très beau symbole. D'abord le choix du lieu, Versailles. Évidemment, une France, une image très très jolie qu'on projette de la France. Alain Ducasse qui sera aux cuisines ce soir. Et en même temps, pardon, je reprends une expression désormais consacrée. Et en même temps, des discours qui ont été faits par le Premier ministre et ce soir par le Président de la République en anglais. Une thématique, Choose France. Donc il y a la volonté de projeter une image un peu nouvelle. Il y a une vraie projection de l'extérieur. Finalement, Emmanuel Macron, chef de l'État, remplit le rôle d'un chef de l'État en 2018 dans une économie mondialisée, celui du VRP de l'économie. Il est là pour promouvoir la marque France, pour promouvoir l'investissement, pour encourager les emplois. Voilà, donc il est dans son rôle. Et en même temps, il envoie, encore une fois, un signal aux Français. Les Français avaient besoin sans doute de redevenir un peu fiers. Il leur redonne un peu de fierté. Pendant très longtemps, on a été l'objet de French bashing du monde entier. On passait pour une économie qui était incapable de se réformer, incapable d'investir. Enfin, vraiment le dernier des endroits où il fallait investir. Mais aujourd'hui, quand on regarde les grands pays d'Europe, on a le Royaume-Uni qui est englué dans le Brexit, l'Allemagne qui est en difficulté politique, l'Espagne également, et l'Italie qui a des élections incertaines. Et bien finalement, dans les grands pays, la France, il y a un momentum. Emmanuel Macron le saisit, il a bien raison.
Il va en profiter. Élection italienne le 4 mars, bien sûr, qu'il faudra surveiller. Benjamin Frémaux, il assume, hein, Macron. Je cite Stéphane Bougenal, patron d'Euronext, était dans le Figaro ce matin, qui se félicite que le président de la République n'ait pas l'attractivité honteuse. Voilà.
Alors, je pense qu'il faut reconnaître que sur le plan tactique, c'est assez génial parce que détourner les Airbus et les Boeing qui se dirigeaient vers Davos, ouais, au profit de la place de Paris. Je pense que c'est un coup de maître qu'il faut reconnaître. Après, on n'est pas non plus dans la nouveauté totale. Alors, Sarkozy en 2011 mettait en place un conseil stratégique de l'attractivité. Hollande en 2014 rééditait l'exercice. Et ce qui change là, il faut le dire, c'est le FAST de Versailles, ça a été dit. C'est aussi le nombre. Hein, lorsqu'on était à 25-30 chefs d'entreprise, on est à plus de 140. Donc on marque un coup très fort. Et on le marque en tout début de quinquennat. Ça, je pense qu'il faut le reconnaître. On le marque en anglais. Donc on ne peut que se satisfaire de cette initiative.
Avec des entretiens un peu façon speed dating, en tête à tête, hein, quasiment. Et on l'a vu à l'image, hein, justement, et bien du président de la République ou du Premier ministre en tête à tête. Alors non pas avec le président de la Russie, des États-Unis, le président chinois, non, avec le patron de JP Morgan, de Google, de Bank of America, d'HSBC, de UPS. Enfin voilà, ils se retrouvaient tous. Fierté ou pas, pour reprendre l'expression d'Alexis Karkling, Bernard Michel, vous à la tête de la foncière Gecina?
Bien sûr, parce que tout ce qui est bon pour la France est bon pour l'immobilier. Et au fond, on voit bien que ça traduit tout un symbole. La France est un beau pays, une grande culture, une belle histoire. Mais c'est aussi un pays qui innove. C'est un pays qui se modernise très rapidement grâce à l'impulsion du président de la République. Et au fond, ça a radicalement changé la vision des investisseurs internationaux que je côtoie dans mon métier de l'immobilier. Il y a encore quelques années, c'était le French bashing. C'était des investisseurs qui avaient déserté finalement le marché français. Vous savez, il y a le marché de l'immobilier, de l'investissement immobilier, c'est sur l'Europe de l'ordre de 300 milliards tous les ans. C'est énorme. Principalement, en réalité, ces dernières années, en Grande-Bretagne. Tous les investisseurs asiatiques, américains, etc. étaient focalisés sur Londres. Là, ça vient de changer. Dès les premières annonces, j'ai recommencé à faire des roadshows dans le cadre de Paris Capital Économique ou dans le cadre de Paris Europlace pour expliquer cela en tant que responsable d'une grande société immobilière. Et très rapidement, on a compris que la vision de la France avait déjà changé. Elle avait changé. Il faut encourager maintenant ces investisseurs à venir en France. Ils sont intéressés. Il y a des conditions, bien sûr, qui ne sont pas toutes réunies.
On verra ça, justement.
Mais les choses ont beaucoup avancé. Tous les signaux sont au vert.
Oui, Mathieu Jolivet, qui fait sa promo dans l'histoire? C'est la France ou c'est Macron?
Un peu des deux, bon. Capitaine. Vous savez, j'en parlais vendredi dernier avec un proche d'Emmanuel Macron qui est un des organisateurs de l'événement. Et lui, ce qu'il m'expliquait, c'était que effectivement le format n'est pas forcément disruptif, pour reprendre un mot très cher à l'environnement d'Emmanuel Macron, mais qu'en revanche, c'est bien l'état d'esprit qui avait radicalement changé, qu'il faut retenir aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que, vous le disiez, ce conseil de l'attractivité, c'est un format qui a été créé, initié par Nicolas Sarkozy.
2011, ouais.
En 2011, après la crise financière. Et ce que me dit cet organisateur, c'est que tous les 6 mois depuis 2011, on a une vingtaine de grands patrons, de CEO internationaux qui viennent à l'Élysée avec en tête l'idée de dire voilà ce qu'il faudrait que vous fassiez pour rendre votre pays un peu plus attractif. Aujourd'hui, déjà, ils sont 4 fois plus nombreux et ils viennent non pas pour dire voilà ce qu'il faut faire en plus, mais pour annoncer des projets d'investissement. Donc on est vraiment sur quelque chose de radicalement nouveau, et forcément la manière dont ça a été marketé par l'Élysée, je dis bien marketé parce qu'il faut pas se leurrer non plus, 99% des annonces d'aujourd'hui étaient de toute façon des annonces qui étaient dans le pipe et qui n'ont pas été déclenchées
parce qu'on a voulu
les inviter à Versailles. Voilà, simplement la manière dont c'est marketé aujourd'hui colle bien avec tout ce qu'on voit sur les radars, les sondages depuis quelques mois, à savoir qu'on a de toute façon, et je ne dis pas que c'est sa responsabilité ou pas, mais un moral économique exceptionnel en France, nouveau, avec un optimisme qu'on n'avait pas vu depuis des décennies et qui capitalise là-dessus pour essayer de renverser l'état d'esprit de tous ces CEO qui viennent en France et renvoyer l'image, parce que l'image est quelque chose de capital. Hein, on l'a bien vu encore en 2016 avec le DRH d'Air France, la chemise arrachée, les dégâts que ça peut faire pour les investisseurs étrangers. Aujourd'hui, l'image des CEO internationaux à l'Élysée sous les ors qui racontent leur investissement, qui disent, bah oui, effectivement, we choose France today, eh ben, c'est une image sur laquelle ils pourront capitaliser dans les mois qui viennent.
Alors, Arnaud Vessier, justement, président de CCI France International, va être à la tête d'International SOS, qui a un pied à Paris, et puis aussi à Londres, hein. Présider toujours le cercle Outre-Manche ou pas, ou c'est fini?
Oui,
ça
oui,
toujours.
Fait, ouais.
J'ai l'impression que le business mondial, c'est macronisé quelque part ou pas?
Macron, c'est le président start-up. Il a créé une start-up il y a 18 mois. Au bout de 18 mois, sa start-up est en train de devenir une grande entreprise. Et maintenant, il fait venir les grandes entreprises à Versailles. Il a un sens de la communication qui est absolument époustouflant, des réformes à notre actif. Et donc, la France a changé d'image. Et comme vous l'aviez dit avant, les autres, qui étaient très bons, en particulier les anglo-saxons, soudain se sont révélés avoir des problèmes considérables. Donc, on a le vent dans les voiles aujourd'hui. Mais il va falloir aller au-delà de la communication.
Ça, bien sûr.
La communication est superbe.
Vous êtes macronisé ou pas, Arnaud Vestier?
Bien sûr, l'ensemble.
Parce que pendant la campagne, vous souteniez un autre candidat, bon, qui a échoué.
Mais qui a échoué, d'ailleurs, je pense, qui a ouvert la voie aux réformes.
C'est François Fillon, en l'occurrence.
aux réformes du président Macron, parce que grâce à ce programme, elles paraissent plutôt raisonnables et plutôt conservatrices comparées à d'autres.
Sens de la communication, ce que disait tout à l'heure Bernard Frémaux, qui était avec nous. Sacré coup quand même de faire se poser les appareils, les Boeing, les Airbus, peu importe l'appareil, sur le chemin entre les États-Unis et la Suisse ou d'autres pays également. Quoi.
Versailles, c'est l'avant Davos. C'est plutôt amusant parce que Versailles paraît pas exactement l'archétype d'une réunion de business, mais enfin ça marche. Et surtout, comme c'est à Versailles, ça attire. Et donc, on a 140 chefs d'entreprise qui viennent. Non, la communication est époustouflante, et tant mieux. Mais il va falloir s'arrêter là.
Voilà, c'est ça. Bernard Michel, Jessina, et ensuite Benjamin Frémaux qui revient. Donc.
Alors, c'est une très belle communication, mais ça repose aussi sur de véritables atouts. Si je prends les métiers de l'immobilier, il y a de grands champions de l'immobilier en France. Je parle d'entreprises comme Bouygues, comme Vinci, comme Unibail Rodamco.
Comme vous.
Comme Gessina, qui est un leader du bureau en Europe. Toutes ces entreprises sont des leaders mondiaux ou européens. Et bien sûr, il y a aussi tout un tissu de PME autour de notre métier. Et il y a aussi beaucoup de start-up. Et tout ça, au fond, ça gagne à être valorisé. Ça gagne à être valorisé parce que ça va encourager ces investisseurs à revenir, à financer des projets moyen, court terme. Et on sait dans l'immobilier que pour 1 million d'euros d'investissement, il y a 24 emplois directs et indirects qui sont créés. Et quand on sait que dans le bureau, on investit à peu près tous les ans 20 milliards d'euros, vous voyez le nombre d'emplois que ça peut générer. Et les sociétés qui, aujourd'hui, sont dans cette industrie, et notamment les foncières comme la nôtre, sont des sociétés qui imaginent, qui construisent, qui créent, qui s'adaptent. C'est tout le contraire de la rente immobilière qu'on stigmatise. Ce sont des sociétés qui sont dans le marché, ce sont des sociétés avec un capital international et au fond qui développent le pays au regard de l'immobilier. Avec un deuxième qui est considérable, c'est que la région parisienne, la position centrale de Paris, c'est le projet du Grand Paris, toute cette région parisienne qui est le numéro un du marché immobilier de bureaux de toute l'Europe continentale. Avec la Défense, qui est le plus grand quartier d'affaires d'Europe continentale.
Ce sera une carte à jouer, peut-être, dans les négociations, enfin, en tout cas, dans l'après-Brexit, avant et après Brexit. Oui, allez-y, Benjamin.
Je pense qu'on peut se féliciter d'avoir des entreprises championnes de l'immobilier comme Gessina ou Unibail. Malheureusement, ce coup de com', il va pas masquer les réalités concrètes. Ouais. Auxquels font face notre pays, et notamment lorsqu'on parle d'attractivité, on parle de compétitivité, et la compétitivité, elle se mesure en part de marché aujourd'hui. Hein. Et notre pays, en 10 ans, il est passé de 5% de part de marché mondial à 3%. Et pourquoi ? Parce qu'on a un tissu productif, un tissu industriel, là on est en dehors de l'immobilier, certes, mais qui s'est beaucoup dégradé, qui a perdu beaucoup d'emplois, qui a perdu beaucoup de compétences. Et le vrai problème auquel on fait face aujourd'hui, c'est que malgré une croissance qui est plutôt bonne en 2017 et qui sera plutôt bonne en 2018, notre appareil productif, il va pas suivre. Et donc, on creuse notre balance commerciale alors que, entre guillemets, ça va bien. Hein, donc, je pense que faire du marketing territorial, c'est excellent. Il faut continuer à en faire. Et d'ailleurs, la région Île-de-France en faisait avec Choose Paris Region. Hein, donc, c'est pas tout à fait nouveau. Mais il faut qu'on répare les fondamentaux de notre économie, sans quoi... le package, le paquet cadeau sera très beau, mais l'intérieur laissera peut-être
peut
à désirer.
Un petit peu décevant. Oui, c'est vrai, c'est les experts de CO Rexecode, rapport qui a été rendu jeudi dernier, hein, c'était le 18, hein, qui explique que cette éclaircie conjoncturelle, mise en avant par chacun, hein, notamment par par l'INSEE. Bon, ben voilà, il y a une tendance plus profonde, hein, d'année en année, la France devient moins compétitive. Alexis Karklins, dans ce rapport compétitivité 2017 Aid Advisory, c'est quoi les fondamentaux qui manquent justement, pour reprendre l'expression de Benjamin Frémaux? Qu'est-ce qui fait que on est moins compétitif? Qu'est-ce qui fait que le commerce extérieur est toujours aussi faible? Il y a un autre classement qui disait Adecco, INSEAD, la France n'attire pas assez de talents.
Oui, oui, il y a
qu'est-ce
ça.
Qui va pas
ce sont toujours les mêmes facteurs qui reviennent. On les connaît. Il y a les classements, c'est ce que nous avons publié ici. C'est finalement de reprendre ces grands classements qui font l'image d'une nation et qui traduisent une réalité économique. Dans les vrais défis, les déficits de la France, on va trouver la compétitivité au sens large, mais de façon plus spécifique, je vais vous donner quelques chiffres qui sont un peu terrifiants. D'accord, pour se faire un petit peu peur, là, effectivement, on a été très, très, très positif et on a raison de l'être.
On
a tellement été critique,
nouveau, voilà.
Ça fait du bien. Mais il y a une réalité, et pour vous donner quelques réalités. Il y a le fameux classement Global Competitiveness Index, qui est celui du Forum de Davos, publié tous les ans, et qui reprend à peu près 110 critères, où les entreprises, les investisseurs classent chaque pays sur ces 110 critères. Et quand on regarde, vous avez 170 pays qui sont classés. Quand on regarde comment est positionnée la France, où est-ce que nous sommes le plus faible? Devinez. Facilité à licencier, à recruter. On est avant les ordonnances Macron, hein.
Ah oui,
je le précise.
C'est ce que j'allais dire, ouais.
On verra l'évolution.
Ouais,
mais en tout cas, dans la dernière édition, on est autour de la 125e, 130e place. Le taux d'imposition, autour de la 120e position. Ah. Tout ce qui concerne l'environnement administratif, 115e, 120e position. Donc, très très mal classé sur ces critères-là. Bien sûr, il y a des critères sur lesquels nous sommes bons. On a cité nos entreprises. Après l'exemple de l'immobilier, start-up, grande entreprise, nous sommes une des deux grandes nations européennes pour le nombre de très grandes entreprises. Aussi, on se caractérise par le nombre d'entreprises innovantes. Nous sommes le premier pays en Europe en termes d'entreprises innovantes. Pardon. Des infrastructures qui sont plutôt de qualité, mais qui ont tendance à se dégrader. Qui ont tendance à se dégrader, que ce soit sur le ferroviaire, sur le routier, sur la téléphonie. Donc, il y avait des avantages compétitifs, on est en train de les perdre. Et puis, la formation. Nous sommes excellents pour former les meilleurs ingénieurs et les meilleurs cadres en Europe avec le Royaume-Uni. En revanche, dès qu'on descend sur l'apprentissage, sujet extrêmement bien connu, dès qu'on descend sur des ouvriers qualifiés, sur les compétences dont on a besoin aujourd'hui, notamment dans l'industrie, nous sommes plutôt une nation en recul. Et d'ailleurs, on le disait, on vient de l'évoquer, la part de marché de la France au niveau mondial a baissé, mais même au niveau de l'export de la zone euro, qui est quand même une mesure très intéressante. Nous sommes en dégradation. Chaque année, nous exportons moins, ce qui d'ailleurs se traduit par notre balance commerciale déficitaire.
Et alors ça, c'est un constat qu'on peut faire en effet en janvier 2018. C'est vrai qu'entre-temps, il y a eu les réformes, donc la réforme Pénicaud sur le droit du travail. On attend évidemment la réforme de la formation. Alors, formation, apprentissage pour l'instant,
oui,
un peu entre parenthèses,
oui.
Les partenaires sociaux faisant endurer un petit peu le plaisir. Réforme fiscale, il n'y a plus d'ISF, il y a la flat tax également, il y a le taux d'impôt sur les sociétés qui va être réduit d'ici 2022 à 25%. Ça veut dire quoi, Arnaud Vessier? Il va falloir patienter avant que la France, finalement, soit véritablement de retour?
Bien sûr, quand on regarde ce qui s'est passé en Grande-Bretagne, qui était dans le trou il y a 30 ans, il a fallu 20 ans à la Grande-Bretagne pour remonter jusqu'au jour où ils se sont tirés dans le pied avec le Brexit. Mais donc tout ne va pas se faire en 3 mois. Je pense que la première révolution à accomplir, et c'est celle que le président Macron est en train de faire, c'est de comprendre l'entreprise. La vraie changement pour moi entre avant l'élection et aujourd'hui, et pour avoir passé beaucoup de temps avec les hommes politiques de droite, je peux le dire, il y a une méconnaissance de l'entreprise qui est quasi absolue dans la société française. Depuis maintenant la nouvelle administration, il est clair que l'entreprise est remise au centre du système et qu'on explique aux Français que si on veut se développer, faire fonctionner notre système de redistribution sociale, il faut que les entreprises deviennent compétitives. Donc c'est une révolution culturelle qui est en train d'avoir lieu et je suis convaincu qu'il faut démarrer par là. Mais sur le fond, sur les mesures essentielles, je crois que tout le monde s'accorde à dire que les ordonnances ont été évidemment très utiles, que les réformes fiscales vont aider, mais que maintenant la deuxième phase, et c'est celle qui va montrer ou pas la voie du succès, la deuxième phase, ça va être la réduction des dépenses publiques.
Ouais,
première phase, il n'y a eu aucune réduction de dépenses publiques. Et sans réduction de dépenses publiques, on ne pourra pas réduire les impôts et on ne pourra pas augmenter la compétitivité. Alors,
Mathieu Jolivet, oui. C'est un dossier que vous suivez précisément ici à BFM Business. Le désendettement, est-ce qu'on en fait suffisamment? Est-ce qu'on fait ce qu'il faut sur les dépenses publiques qui, on voit, qui progressera en volume de 1% l'an prochain, enfin cette année, en 2018, au même rythme que la moyenne depuis 2010, par exemple?
Mais, là-dessus, pour savoir où on en est, moi j'ai suivi ce matin, il y avait un autre rendez-vous intéressant, un peu moins glamour que Versailles, mais c'était l'audition solennelle d'Emmanuel Macron à la Cour des comptes par son premier président Didier Migaud. Ouais. Didier Migaud lui adressait ce message ce matin même. Il lui disait attention à ce que la croissance magnifique qu'on observe aujourd'hui ne devienne pas une illusion de nos efforts qu'on a l'impression de faire pour baisser le déficit et assainir notre dette, car aujourd'hui vous faites, Emmanuel Macron, des promesses de réduire la dépense publique de 60 milliards d'euros sur le quinquennat, mais via des économies, mais on ne connaît pas à l'heure actuelle, au moment où on se parle, le contenu de ces économies. Ce à quoi Emmanuel Macron lui répondait juste après dans son discours, que il fallait bien comprendre qu'aujourd'hui, pour assainir les finances publiques, il faut avoir une deuxième jambe qui est celle de l'investissement. C'est-à-dire qu'il dit, je suis obligé, pour faire des économies, de mettre 15 milliards dans la formation professionnelle, de mettre de l'argent pour les nouvelles indemnités chômage, pour essayer de débrider les futurs démissionnaires et puis les aider à mieux rebondir. Tout ça, ça coûte de l'argent, mais c'est de l'argent nécessaire pour remettre à plat nos fondamentaux un peu structurels. Et une fois qu'ils seront remis à plat et qu'on aura fait un lifting là-dessus,
à ce moment-là,
Et à ce moment-là, il y aura le retour sur investissement qui se traduira par une machine étatique qui sera plus simple, plus lisible, moins coûteuse, et donc les économies qui arriveront. Mais ça, c'est la logique, en tout cas, telle que la déroule Emmanuel Macron, mais c'est une logique de long terme. Et ceux qui attendent.
En tout cas, ça sera vraiment le vrai rendez-vous, la dépense publique, quand même.
C'est exactement. Mais ça, c'est un rendez-vous qui pourrait commencer à faire des effets une fois qu'il aura mis en place tous ces investissements structurels et dont on pourra observer les effets, à mon avis, que sur 2021-22, je pense.
Vous voulez me dire un mot, Benjamin Frémois, la Banque Maryse Messier.
Il est clair qu'à 54% de dépenses sur PIB, de dépenses publiques sur PIB, on a un record en Europe et dans le monde. Et donc, mais je pense que ça a déjà été dit par Arnaud Vessier, si on ne baisse pas ce ratio, il est inenvisageable de baisser sur le long terme les impôts des ménages et des entreprises. D'ailleurs, on le voit l'année prochaine, les impôts des ménages vont augmenter avec des taxes sur le tabac, des taxes sur l'essence, et on va dire une baisse des impôts, des cotisations qui sont prévues plutôt sur la fin de l'année. Et donc on voit bien le dilemme dans lequel est l'équipe Macron, avec un premier effort qui a été fait notamment sur l'impôt sur les sociétés, sur l'ISF, mais qui ne pourra pas être durable, en tout cas sur le plan politique, si on ne règle pas ce problème de dépenses. Après, je pense que ce sujet, le sujet des dépenses, doit être engagé dès maintenant. On ne peut pas attendre que l'appareil productif français soit à nouveau opérationnel pour se poser ces questions, parce que ce sera pour revenir en état de marche, notre appareil productif a besoin de temps. On n'investit pas dans le capital humain, on n'investit pas dans des nouvelles machines en un claquement de doigts. C'est des décisions qui prennent du temps à se prendre par les chefs d'entreprise. Et on voit bien aujourd'hui la difficulté qu'ont les chefs d'entreprise à recruter, elle vient aussi de là. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait les efforts qu'il fallait dans la formation. On a des usines qui ne sont pas encore capables de répondre à une demande qui est très grosse, qui a beaucoup monté récemment. Et donc, on en est là. Et ça prendra du temps, et il faut accepter de faire les deux en même temps, à savoir remettre en état de marche notre appareil productif et baisser la dépense publique.
Bernard Michel, à la tête de Gessilia, témoignage justement du chef d'entreprise. Je vous redonne la parole à Arnaud Vessier, Alexis Karklin. Tout le monde lève la main. Allez-y, Bernard Michel.
Et exploiter aussi le formidable potentiel de l'innovation qui résulte de la révolution numérique et accélérer les investissements dans ce domaine.
C'est déjà lancé, ça.
C'est lancé, mais il faut le financer aussi. Vous savez, aux États-Unis, on investit énormément, ça compte en milliards, dans les start-up, dans l'innovation. C'est pas vraiment le cas encore en Europe. C'est pas vraiment le cas encore en France. Et il faudra bien répondre à cette question qui est de savoir si nous voulons garder notre souveraineté dans ces domaines ou laisser les GAFA le faire à notre place. Dans mon métier, ce que j'observe, c'est des changements dans la façon de travailler. J'observe également des changements sociétaux dans de ce qu'on appelle l'économie du partage. Partage de bureaux, coworking, partage de parking, etc. Beaucoup de choses qui se passent et qui, aujourd'hui, nous conduisent à réfléchir à notre métier, à le remettre en cause. Mais tout ça, ça veut dire aussi que si on s'y prend bien, si on investit bien, on améliorera aussi l'efficacité de nos salariés, donc la compétitivité de nos entreprises. Alors bien sûr, il faut aller vite aussi, là.
Juste un mot, ce que vous disiez, garder notre souveraineté, je vous ferai réagir simplement. Le fait, par exemple, ça avait été annoncé par Bruno Le Maire la semaine dernière, sa volonté d'élargir le décret Montebourg sur le contrôle des investissements au secteur du numérique. On se souvient ce qu'avait dit le même Bruno Le Maire une semaine avant, en Chine, hein, quand il se disait favorable à combattre le pillage de ces technologies. C'est pas un peu contre-productif? C'est pas un mauvais signal quand même, ça, qu'adresse la France, justement, quelque part? Allez, on se referme, Arnaud Vessier, sérieusement?
Non, je pense que ça, on peut parfaitement contrôler les investissements technologiques sans que donner l'impression de se refermer. Mais je pense qu'en revanche, il faut aller au bout du raisonnement. Aujourd'hui, le crédit d'impôt recherche ne s'applique pas à la transformation digitale. Or, ce dont ont besoin les entreprises, c'est d'une transformation digitale accélérée. Les Français sont en retard, et en particulier nos entreprises de taille moyenne et les petites. Il faut absolument les aider. Il n'y a pas d'appui fiscal là-dessus. Si on reprend l'idée de... On investit d'abord et on récupérera les fruits ensuite. Ça me rappelle beaucoup le grand emprunt de Nicolas Sarkozy, où le raisonnement était exactement le même. On fait un grand emprunt, ça nous permet d'investir, ça nous permet de nous améliorer, et puis il y aura le grand soir, et on sera tous riches et heureux. La réalité, c'est que, comme le disait Benjamin, il n'est pas possible de déconnecter le moyen terme et le court terme. Mais le numérique est dans l'enjeu, un enjeu absolument essentiel, et là, il faut des aides fiscales, donc une diminution de la dépense publique pour pouvoir générer ces aides fiscales.
Alexis Karklins, Aid Advisory.
Je vais vous donner trois chiffres qui pour moi montrent à quel point ce capital confiance qui est en train d'être vraiment reconquis depuis quelques mois pourrait se transformer en investissement et en emploi à quelques conditions. Trois chiffres, le premier c'est 72e. La France est le 72e pays dans le classement de la liberté économique. 72e.
72e.
Entre Tonga et Fidji. Voilà. Donc, vous ne pouvez pas, dans la compétition internationale, être compétitif si vous n'êtes pas capable de transformer une nation. C'est difficile, on le sait, mais si ça n'est pas fait maintenant, avec ce capital confiance et une conjoncture économique qui est plutôt bonne et donc plutôt porteuse, s'il n'y a pas ces éléments de libéralisation nécessaires pour que l'économie soit plus fluide et puisse s'adapter à la réalité de l'économie mondiale, vous ne pouvez pas espérer transformer ce capital confiance en emploi. Deuxième chiffre très simple. 42 ans de déficit budgétaire consécutif. Il n'y a aucune théorie économique qui vous dit que c'est bien. Il n'y a aucune théorie économique. Donc, effectivement, à force de dire il faut faire les efforts maintenant et puis après, quand la conjoncture sera meilleure, on commencera à rembourser. Non, c'est pas possible. On a eu plein de phases de conjoncture qui étaient plus porteuses depuis 1975. La réalité, c'est qu'on n'a jamais été capable de combattre le déficit budgétaire. Donc, il y a un moment, il faut le faire. Dernier chiffre que je trouve... pour moi, peut-être le plus intéressant, c'est le fameux taux de chômage actuel qui est 9,2%. Et on commence à avoir un débat en France pour se dire finalement, c'est peut-être le taux de chômage structurel. Pourquoi ? Parce que l'outil de production est effectivement aujourd'hui en capacité maximale, parce qu'on n'arrive pas à recruter. Et donc on se dit, bah tiens, la France, qui a été incapable de former ses cadres et ses ouvriers et ses talents de demain pour pouvoir répondre à une conjoncture favorable, la France aujourd'hui se retrouve dans une situation complètement dingue, avec une croissance qui revient, mais qui ne se transforme pas en emploi.
Voilà, mais méditez quelques instants sur les chiffres que vous donnez, Alexis Karklins, ce taux de chômage de 9,2%, c'est 42 ans de suite de déficit budgétaire, et la France qui est 72e dans le classement mondial de la liberté économique. On revient à ce que la France est vraiment de retour. Les décodeurs de l'écho à suivre sur BFM Business, à la radio et à la télé, comme tous les soirs.
L'écho s'éclaire sur BFM Business. Fabrice Lundy reçoit les décodeurs de l'écho.
Oui, la France est-elle vraiment De retour, oui, on s'emballe, il y a ce grand sommet de Versailles, on est à 2 jours de la présence du discours aussi très attendu d'Emmanuel Macron à Davos, lui, le grand sommet international qui démarre donc eh bien aujourd'hui, en ce début de semaine, justement, avec des annonces donc à Versailles, avec des grands patrons de boîtes internationales, hein, qui sont venus directement, 140 patrons de boîtes internationales, c'est énorme. Bon, oui, mais encore des efforts à faire, on le disait il y a quelques instants, et notamment sur le numérique, notamment, il faut accélérer sur le numérique, vecteur de croissance, vecteur d'emploi. Juste un mot, Bernard Michel, à la tête de la grande foncière Gecina. Vous avez mené l'enquête avec KPMG, avec Real Estate, justement, pour publier le premier baromètre de l'innovation dans l'immobilier auprès de 100 start-up, auprès des principales entreprises françaises, pour mettre en évidence les principales tendances, les questions qui impactent le marché, justement, de cette tech dans l'immobilier, le mesurer. Qu'est-ce qui révèle ce baromètre ?
Alors, nous allons dévoiler ce baromètre demain matin,
mardi,
en présence de Monsieur Julien de Normandie, et avec la présence de beaucoup de start-up et de beaucoup de grandes entreprises de l'immobilier. Parce que c'est le début d'une démarche qui vise à créer la French Tech de l'immobilier, qui s'appellera Real Estate. Et dans ce cadre-là, nous allons dévoiler les résultats de ce baromètre, qui montre déjà qu'il existe une véritable dynamique, qu'il y a plusieurs centaines de start-up qui travaillent déjà avec les entreprises de l'immobilier pour moderniser nos façons de travailler. Parce que plus de compétitivité, ça veut dire plus de flexibilité, donc plus de numérique. Ça veut dire s'adapter aussi aux nouveaux besoins des clients, aux nouveaux usages. Et au fond, on va voir au travers de ce baromètre que, tout d'abord, cette dynamique existe déjà. Notre rôle avec Real Estate sera de la développer, de la faire connaître. Mais que, en même temps, il y a dans cette dynamique des besoins de financement considérables pour permettre justement à ces start-up d'arriver au stade de la maturité. Et puis qu'il y a 3 domaines d'intervention. L'utilisation des données, la modélisation 3D et tous les nouveaux services qu'on va apporter à l'immobilier.
Juste. Et la France, elle a aussi là, une carte à jouer dans ce domaine de la tech attachée, affectée, rapportée à l'immobilier.
Bien sûr. Et d'ailleurs, les GAFA, je reviens là-dessus, investissent déjà en France dans le domaine de l'intelligence artificielle. Il est clair aussi que la présence de M. Villani,
Cédric Villani, député de La République En Marche, bien sûr,
est un Médaille signe
Fields,
très clair.
Bien sûr, ouais.
Et la France a sa carte à jouer, puisqu'elle dispose déjà des connaissances, elle a besoin des financements. Et ça, c'est aussi un message qui va ressortir du baromètre que nous allons dévoiler demain.
Voilà, ce mardi matin, en effet. Tiens, justement, à propos de l'intelligence artificielle, Mathieu Jolivet, il y avait le patron de Google qui était là, qui était en tête à tête avec le président de la République cet après-midi à Versailles. Allez, il annonce des investissements en matière d'intelligence artificielle. Facebook, également, des programmes de formation numérique pour 65 000 personnes, un programme de 10 millions, là aussi dans l'intelligence artificielle. Toyota, c'était ce lundi matin avec la visite du président de la République sur le site de Valenciennes-Ona, investissement de 300 millions d'euros. SAP, 2 milliards d'investissements sur 5 ans. Finalement, c'est utile, ce sommet de Versailles.
On en a beaucoup parlé dans la première partie de l'émission, mais effectivement, c'est un sommet qui est utile pour celui qui veut cultiver l'image d'un pays où les choses commencent à aller mieux et où on voit les choses de manière positive, où on voit le verre à moitié plein. Donc là, il y a des images qui peuvent être gravées pour le reste du quinquennat et qui symboliseront cette idée que les choses vont mieux. Après, de manière beaucoup plus concrète, ça peut être utile pour faire des annonces, alors qu'ils ne sont pas publics parce que tout est à huis clos aujourd'hui.
Alors, tiens, justement, pourquoi c'est à huis clos ? Pourquoi Macron, justement, il n'a pas prononcé ce discours en public ? Pourquoi on l'a pas vu un petit peu plus avec ses grands patrons ? Pour pas donner l'image encore de l'ami des patrons,
je crois aussi qu'il y a une idée de une volonté d'avoir des discussions à bâton rompu en fait, sans aucune tierce personne et les plus libres possibles. Et par exemple, je vais vous donner un exemple d'annonce qui a eu à huis clos tout à l'heure. On a été au courant parce que j'en ai parlé après avec Paris Europlace qui a publié un communiqué d'ailleurs. Mais Édouard Philippe dans l'après-midi, il faut voir qu'il avait en face de lui le PDG de Goldman Sachs, qu'il avait Bank of America, qu'il avait HSBC. Au moment où on attend quand même des décisions très importantes pour savoir s'ils vont aller à Francfort ou à Paris.
Goldman Sachs, il avait dit le patron,
on est pas mal à Francfort. Il avait dit ça il y a quelques semaines. Voilà. Donc là, tout à l'heure, on avait le Premier ministre qui avait Lloyd Blankfein face à lui. et qui annonce qu'il va supprimer, exonérer les cotisations retraite pour tous les impatriés, donc ceux, les employeurs qui décideront de faire revenir les ceux qui étaient expatriés en France, donc ceux qui étaient à Londres, hein. Donc plus de cotisations retraite, à deux conditions, ça c'est les précisions que je viens d'avoir avant de venir dans votre émission. Première condition, qu'ils soient partis depuis au moins 5 ans. Deuxième condition, qu'ils soient encore affiliés à un régime de retraite privé. À ces deux conditions, vous allez avoir une baisse de charges sociales assez conséquente finalement pour les employeurs qui décident de faire revenir des employés en France. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas neutre. Et j'en parlais juste avant d'entrer dans la mission avec un des patrons de Paris Europlace qui représente les intérêts financiers parisiens qui me disait que si on n'égalisait pas, on se rapprochait avantageusement des conditions fiscales que propose aujourd'hui Francfort aux salariés qui sont à Londres et qui cherchent à aller ailleurs. Donc oui, en termes d'attractivité fiscale, le timing était très bon pour faire ce genre d'annonce face aux bonnes personnes.
Oui, justement, Arnaud Vessier, à la tête du Cercle Outre-Manche, c'est un point que marque Paris pour essayer de capter justement les exilés du Brexit installés jusqu'à présent à Londres.
Alors, exilés du Brexit, c'est un peu tôt, mais c'est certain qu'en termes d'attractivité, il y a toujours dans les classements, pour reprendre les classements, les deux villes qui arrivent toujours en tête, c'est Londres et Paris. Simplement, Londres a perdu 20 points en un an, là où Paris n'en a perdu que 2. Mais du coup, on est pratiquement au même niveau, 32% pour Londres, 27% pour Paris. Pour le monde de la finance, aujourd'hui, Francfort tient la corde parce qu'il y a la Banque centrale en Allemagne, parce que l'Allemagne est stable, etc. Mais il est clair que la plupart des banquiers, si on leur donnait vraiment le choix en termes de style de vie, est-ce que vous préférez vivre à Francfort ou à Paris, Paris serait le choix. Donc aujourd'hui, il y a un énorme travail à faire. Chaque fois qu'il y a une mesure fiscale, et les mesures fiscales sont essentielles, la City of London est devenue ce qu'elle a été grâce à ce qu'on a appelé le système non-dom, qui est fondamentalement une énorme exemption fiscale qui a permis à tous les banquiers de non-britanniques de venir à Londres à des conditions extrêmement avantageuses. Donc si on met une fiscalité en place, et c'est ce qu'on est en train de faire favorable à Paris, on aura fait la moitié du travail. La deuxième moitié où on n'a pas encore assez progressé, c'est en matière d'école internationale, parce que on sait que c'est le deuxième critère que demandent les futurs impatriés. Et là, on n'a clairement pas assez de place.
Alors, Édouard Philippe a annoncé tout à l'heure aussi qu'il allait augmenter les classes bilingues, et qu'il allait créer des nouveaux lycées internationaux à Paris, en Ile-de-France.
Oui, mais il n'y a pas encore de vrais
projets. Non, mais il y a des annonces d'intention face aux personnes qui attendent.
Benjamin Frémaux, associé de la Banque d'affaires, Messier Maris, associé.
Je pense qu'il faut faire feu de tout bois, et ces annonces sur la fiscalité, sur les impatriés, sont de toute façon très positives. Mais on ne peut pas tout mettre dans le même sac. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est d'abord une journée de communication politique. Ça va redonner du baume au cœur aux investisseurs étrangers, et c'est une bonne chose. Ça permet au gouvernement d'expliquer ces réformes, celles qui viennent d'être prises, c'est indispensable.
Service après-vente, ouais.
De là à imaginer que ça a un impact immédiat et concret sur un montant d'investissement direct étranger en France, enfin, faut quand même pas rêver. Et lorsqu'on parle de 3 milliards d'annonces, enfin, faut mettre ça en rapport des investissements directs étrangers en France en 2017. On est à plus de 40
milliards. Ça a doublé par rapport à les trois précédentes années.
Donc 40,
on est 45 et on est de
versus 23 en moyenne sur les trois dernières années. Donc on est
dans la bonne tendance. Voilà.
On est dans les purs. Après, je pense que le sujet l'attractivité de la place financière parisienne est assez spécifique en définitive. Je pense qu'il faut effectivement gérer entre guillemets le cas des salariés du secteur financier. Et les annonces vont dans ce sens-là. Maintenant, il faut pas se leurrer. Ce sont les actionnaires de Goldman Sachs, de Morgan Stanley et autres qui décideront qui de Francfort ou Paris sera choisi. Alors, on a la chance d'avoir eu des premières décisions avec Bank of America, avec HSBC. Oui. Maintenant, le gros du morceau, pour l'instant, se dirige plutôt vers Francfort. Et quand on regarde ce qui intéresse ces actionnaires En termes de critères de choix, le premier critère, ça va être l'impôt sur les sociétés. Et donc, on a une tendance qui a été affichée.
2022, dans le... c'est trop tard avec le taux de 25%.
C'est pas trop tard, mais on est en train de fermer l'écart qui nous sépare de la fiscalité d'autres pays comme la Grande-Bretagne ou les États-Unis. Mais eux-mêmes font des efforts dans ce sens également. Donc, il faudrait pas que le temps qu'on prenne pour fermer l'écart laisse aux autres pays le soin de baisser encore leur fiscalité.
Alexis Cartier, ce que vient de dire Benjamin Frémaux, c'est essentiel. Quel geste donner justement pour faire la différence dans les quelques mois qui vont nous séparer de la décision de ces grands acteurs de la finance?
Le sujet va même au-delà de la finance, parce que évidemment la finance est concernée, mais c'est très important de parler aussi de qu'est-ce qui fait qu'on peut transformer la France en hub pour les investisseurs internationaux qui décident d'implanter leurs sièges sociaux européens.
Voilà.
C'est de continuer ce qui a été entrepris. Quand on regarde encore une fois les éléments où nous sommes jugés défavorablement, la fiscalité au sens large, la fiscalité des revenus, la fiscalité des entreprises, ça va dans le bon sens. Mais encore une fois, tout le monde baisse l'impôt sur les sociétés. C'est un mouvement général mondial. Donc, au fond, c'est une échelle, mais si tout le monde va dans le même sens, vous n'êtes pas plus compétitif. Ça ne peut pas se jouer que là-dessus. Ça doit se jouer sur d'autres éléments. On a parlé de la qualité et l'importance des infrastructures. On peut comparer Saint Pancras et Gare du Nord et vous aurez tout compris. Il y a encore beaucoup de chemin à faire. Et puis, ça va au-delà de ça. Ça va continuer à transformer cet écosystème avec plus de flexibilité, plus de flexi-sécurité, mais aussi d'être capable de fournir des cadres, des ingénieurs, ces gens qui vont travailler dans ces sièges sociaux, dans ces industries, qui pourraient vouloir s'installer ici. Et ça demande effectivement du temps, ça demande de l'effort et de la continuité.
Bernard Michel, Jessina, qu'est-ce qu'il reste encore à faire?
Il faut aussi
pour que la France soit vraiment de retour.
Il faut aussi continuer à faire ce que nous savons bien faire. Par exemple, tout ce travail d'investissement sur les infrastructures. Je pense, par exemple, au Grand Paris Express, à cette infrastructure de 200 kilomètres
de
métro autour de Paris, avec 68 nouvelles stations. C'est fondamental si on veut donner à cet ensemble du Grand Paris et de la région parisienne, je dirais, un poids considérable dans la compétition internationale.
On aurait dû faire l'Expo 2025 ou pas? Celle qui a été annulée ce week-end.
On ne peut pas tout faire en même temps. Moi, je peux comprendre effectivement qu'on ait fait des choix dans les investissements.
Les JO 2024, la Coupe du Monde 2023 en rugby.
Déjà très bien. Et au fond, tout ça, c'est conditionné aussi par ces infrastructures, donc par des grands projets qui peuvent être financés par des investisseurs internationaux.
Un mot chacun pour terminer, Arnaud Vessier, Mathieu Jolivet et Benjamin Frémaux. Qu'est-ce qui reste encore pour que la France soit vraiment de retour?
Pour que la France soit de retour, il faut qu'on diminue nos dépenses publiques. Je pense que c'est l'alpha et l'oméga.
Attention à ce qu'il ne faut pas faire. Il y a une loi entreprise qui arrive au printemps, qui est censée donner la part belle aux salariés, mais qu'est-ce qu'on va demander aux entreprises en contrepartie? Qu'est-ce qui va pouvoir peser sur les chefs d'entreprise? Un exemple très précis et très court, mais par exemple, ils veulent des incitations fiscales pour que débrider et inciter les chefs d'entreprise à grandir et à franchir les seuils. Mais comment ça va être financé? J'en parlais avec un conseiller de Bruno Le Maire qui me disait, faudra voir pour le financer, comment est-ce qu'on peut supprimer des aides aux entreprises? Attention.
Benjamin Frémaux.
Moi, je pense qu'il faut faire attention à ne pas oublier nos territoires. Alors, c'est vrai que la région du Grand Paris attire 40% des investissements étrangers. Mais maintenant, c'est dans les territoires qu'il faut faire revivre l'industrie. Et sans cette industrie, on risque de perdre du monde en chemin.
Merci à tous. Merci Alexis Karklins, directeur général délégué Date Advisory associé. Donc Date Advisory, cabinet de conseil aux entreprises, auteur de ce rapport sur la compétitivité. L'un avec la Tour Eiffel, c'est Paris, enfin c'est la France. L'autre avec Big Ben, c'est le UK. Bernard Michel, PDG de la foncière Gecina. Arnaud Vessier, donc, qui est avec nous, PDG d'International SOS, qui lui a signé un rapport pour l'Institut Montaigne en faveur des ETI. Mathieu Jolivet, reporter à BFM Business. Et puis Benjamin Frémaux, aussi associé de l'Institut Montaigne et puis associé de la Banque d'affaires Messier, Maris et associé. On revient vite avec les décodeurs de l'écho.
Les décodeurs de l'écho sur BFM Business.
AI may be the most important new computer technology ever, but AI needs a lot of processing speed, and that gets expensive fast. Upgrade to the next generation of the cloud, Oracle Cloud Infrastructure, or OCI. OCI is the single platform for your infrastructure, database, application development, and AI needs. Do more and spend less, like Uber, 8x8, and Databricks Mosaic. Take a free test drive of OCI at oracle.com/insightful. Oracle.com/insightful.